série, bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un cereal lover
ou un cereal eaters.
Bonjour les Sérivores. Avec David, aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la série qui s'appelle The Last Kingdom, une série télé américaine, britannique. Tellement on a l'habitude de passer des séries américaines, ben voilà, ma langue a fourché. Alors, c'est diffusé d'abord sur BBC America One, c'est pour ça aux États-Unis, c'est pour ça que j'ai fait la petite erreur, et à partir du 22 octobre sur BBC Two au Royaume-Uni. La deuxième saison a été coproduite par la BBC et Netflix est devenu le seul diffuseur depuis la troisième saison, et il s'agit de l'adaptation des romans historiques « Les histoires saxonnes » de Bernard Cornwell. Vous allez voir, c'est très intéressant au niveau historique. Tu peux nous parler un peu justement de cette série, David ?
Oui, tout à fait. C'est une série qui a été produite de 2015 à 2022, donc très récente. On pourrait classer cette série comme série d'aventure historique, et c'est une série originale qui est composée de 5 saisons, 46 épisodes de 52 minutes à 60 minutes, et un film aussi clôturant la série.
Alors,
ça se fait beaucoup, ça.
Oui, maintenant, ça devient...
De plus en plus, comme les Peaky Blinders qui vont avoir droit à leur film.
Mais c'est vrai, parce qu'avant, on avait plutôt l'habitude de voir le film et puis la série. Ça se fait dans les deux sens, maintenant. C'est-à-dire qu'on essaie de prolonger les choses en mettant soit, comme tu l'as dit, le film après la série, ou alors la série après le film. Donc, c'est pour contenter un maximum de fans, je pense. Et puis, si ça marche bien financièrement, parce qu'on sait que c'est aussi ça qui mène la barque... avant tout dans le milieu du showbiz. Alors, cette série se passe à la fin du 9e siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre, et qui est constituée à l'époque de plusieurs royaumes. Les terres anglo-saxonnes sont attaquées et régies par les Danois, hein, plus connus sous le nom de Vikings, et Uhtred de Bamburgh est le fils orphelin d'un noble saxon kidnappé par les Scandinaves et qui a été élevé parmi eux. Donc il doit sans cesse choisir entre le royaume de ses origines et le peuple qui l'a vu grandir. Donc on monte un petit peu la fondation de ce qui sera l'Angleterre et plus tard le Royaume-Uni. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir tous ces conflits. Et puis c'est un petit peu un parallèle à Viking, la série qui a très bien marché. Et pour moi, ces deux séries se complètent merveilleusement. Eh bien, quoi de mieux que de se mettre dans l'univers de The Last Kingdom avec la bande originale de la série. Alors, les héros principaux, dans le rôle du super-héros, Uhtred de Bebambourg, c'est Alexander Drummond. On trouve Emily Cox dans le rôle de Brida. Elizabeth Butterworth joue Elswif depuis la saison 2 et elle est récurrente dans la saison 1. Tu peux nous parler des autres personnages ?
Il y a aussi Eva Burswith qui joue Hilde depuis la saison 2 et elle est récurrente aussi en saison 1. Et il y a Mark Rowley qui joue Finan depuis la saison 2. Cavan Clerkin, le père Perlig, depuis la saison 2. Et il y a aussi Arnas Fedaravicius, Citric, depuis la saison 2. Et en plus, je l'ai bien dit, tu vois. Jep Beck Lawson qui joue Husten depuis la saison 2. Et Millie Brady qui joue
Ethelfled.
Ethelfled.
C'est vrai que c'est très compliqué. Hein, les noms, c'est des noms vraiment d'origine plus ou moins anglo-saxonne galloise. On utilise beaucoup moins de notre époque. On retrouve ensuite Matthews McFadden, qui est assez connu, qui joue Uhtred, le père d'Uhtred, et surtout un acteur qui est quand même avec une super carrière, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, c'est Roger Hauer, qui joue le rôle de Raven, et Jason Fleming, qui joue Edmund, le roi d'Est Anglie. Et on retrouve aussi l'écrivain qui a été à l'origine de la série, Bernard Cornwell, qui joue Bjorn Heard. Alors, les anecdotes autour de la série, eh bien, The Last Kingdom était, comme je le disais, une adaptation d'une série de romans intitulée Les Histoires Saxonnes, ou The Saxon Story en version originale. L'histoire d'Uhtred est racontée par l'auteur britannique Bernard Cornwell depuis 2004. 12 tomes sont déjà sortis, avec un 13e qui est paru il n'y a pas très longtemps. Et la série est intitulée The Last Kingdom, comme le premier volet littéraire. C'est parce que c'est une référence au Wessex, le dernier royaume anglo-saxon à résister aux invasions vikings.
En juillet 2014, il est annoncé que la BBC va adapter les histoires saxonnes, The Saxon Stories, de Bernard Cornwell, en série télévisée. Le tournage de la série commence en novembre de la même année, sous la direction de Peter Hoare, Anthony Byrne, Ben Shannon et Nick Murphy, en Hongrie et au Royaume-Uni. La première saison couvre donc l'histoire des livres Le Dernier Royaume, The Last Kingdom, et Le Quatrième Cavalier, The Pale Horseman. En septembre 2014, il est annoncé que Alexander Drummond et David Dawson camperont respectivement les rôles d'Uhtred de Bebbanburg et du roi Alfred. Le mois suivant, l'acteur Thomas W. Gabrielson est désigné pour le rôle du Danois Guthrum.
Alors, Bernard Cornwell annonce sur son compte Twitter le renouvellement de la série pour une seconde saison qui avait été prévue pour 2017. Stephen Bouchard revient en tant que scénariste de la série et Netflix va même avoir beaucoup d'intérêt puisqu'ils vont signer un accord partenaire de coproduction de la saison. La seconde saison couvre l'histoire des livres Le Seigneur du Nord, The Lord of the North, et Le Chant de l'Épée, Sword Song. Le tournage de cette seconde saison débute en juin 2016 à Budapest. Et en juin 2016, Richard Rankin, Gérard Kern, Fuhrer Linhart, Millie Brady, Eric Madsen et Peter McDonald vont rejoindre le casting de la saison. Le journal suédois Aftonbladet rapporte que l'acteur Bjorn Bergsten et le sportif Magnus Samuelsson rejoignent la saison. Donc on voit un casting qui s'étoffe au cours des saisons.
Une troisième saison est annoncée en septembre 2017 pour la fin de l'année 2018. En avril 2018, Alexander Drummond annonce la production de la saison 3. Cette saison est diffusée seulement sur Netflix au début de l'automne 2018. L'auteur Bernard Cornwell a été approché afin d'apparaître dans la troisième saison dans un caméo.
Eh oui, comme il fait ça à la Hitchcock, hein. Ouais. C'est pas mal. Alors, une quatrième saison est annoncée par Alexander Drummond en décembre 2018, preuve que la série fonctionne bien. Et la saison 4 a aussi été diffusée sur Netflix en priorité.
Une cinquième saison est annoncée par Alexander Drummond en juillet 2020, le 30 avril 2021. Il est annoncé que celle-ci sera la dernière de la série.
Alors la musique, elle, était signée par John Lunn et Elver Palsdottir. Donc on peut voir que c'est assez international comme série, hein, puisqu'on voit des noms, il y a des noms plutôt à consonance anglo-saxonne, viking, voilà, donc il y a un petit peu de tout dans cette série.
La série a été tournée en Hongrie, dans les studios Korda, les collines de Dobogoko, au Pays de Galles et en Angleterre, dans le comté de Durham, à Noise Point, situé à proximité de Siam. Et le héros de l'histoire se nomme Uhtred. C'est pour une bonne raison. Le nom de famille du père biologique de l'auteur était Uhtred. Et il descend de Saxons qui ont pris le nom d'Uhtred. Ces derniers possédaient Bebbanburg, aujourd'hui devenu le château de Bamburgh, et ont réussi à le tenir pendant l'invasion et l'occupation danoise dans le nord de la Grande-Bretagne.
Alors, chaque saison de The Last Kingdom est basée sur deux tomes de la série littéraire, comme on l'a pu le voir. Ainsi, la première saison retrace les événements des deux premiers livres, la saison 2, ceux des tomes 3 et 4. On retrouve dans la saison 3 les tomes 5 et 6, et ainsi de suite.
Et la série est tournée en langue anglaise. Il était impératif pour les créateurs d'avoir un vrai fossé culturel entre les Danois et les Saxons. Ainsi, les Danois sont presque exclusivement joués par des acteurs scandinaves et les personnages anglo-saxons par des acteurs anglais. La maquilleuse Kate Benton avait déclaré au début de la série « Nous avons établi que les Vikings étaient plus sexy, plus flamboyants, avaient des tatouages, des barbes, de grandes mèches fluides avec des tresses, tandis que les Saxons seraient assez pieux, contenus, leurs cheveux seraient serrés et soignés. Nick tenait à ce que les coiffures des femmes saxonnes soient tressées sous leur menton, ce qui serait soigné et pratique.
Dans une interview pour le site médiévaliste, Bernard Cornwell avait déclaré « Je n'oublierai jamais que je dois avant tout être un conteur, pas un historien. L'histoire sera toujours au second plan dans l'intrigue. J'espère que les gens lisent les romans historiques pour le divertissement et pas pour l'éducation. Mais ils peuvent toujours être des portails de l'histoire. Un bon roman historique devrait inciter certains lecteurs à en découvrir davantage, mais ce n'est pas mon travail d'éduquer. La série adaptée de ces livres suit la même route. Nous avons le personnage fictionnel d'Utred qui croise dans sa route les figures historiques, mais sa destinée est inventée. » Donc ce mélange historique-fiction. Et en effet, moi je suis entièrement d'accord, je trouve que c'est très bien d'amener les gens à l'histoire par le biais de romans, de films, de séries.
Alors pour incarner Uhtred, Alexander Drummond a dû s'entraîner, mais seulement une petite semaine avant le début du tournage de la première saison. Mais l'acteur a continué pendant tout le tournage pour véritablement entrer dans la peau du héros badass. Il a même décidé de faire lui-même ses cascades à cheval.
Et c'est assez réussi quand on va voir dans la série les combats et tout. C'est parce que c'est pas une série qui se passe dans un canapé. Hein. Alors l'acteur qui incarne Hubba, le fils de Ragnar, pendant les 4 épisodes de la saison 1, a lu le poème Avan Merl en vieux norrois, donc la langue médiévale en Scandinavie, pour se familiariser avec la culture viking. Donc on voit qu'il y a un travail très approfondi des acteurs pour entrer dans leur rôle.
Alors, Kelisa Butterworth incarne Alsuith, la mère de Hatfeld. Elle n'a que 6 mois de différence avec l'interprète de cette dernière, Millie Brady. La première est née en juillet 1993, la seconde en décembre de la même année. Une différence d'âge incroyablement basse.
Mais la magie du cinéma, c'est vrai que souvent, on joue les femmes, les hommes, les frères, les sœurs. On voit que le maquillage joue un très grand rôle. Et puis le jeu des acteurs, bien sûr. On peut voir, comme je disais tout à l'heure, Roger Hauer, l'acteur vedette de Hitcher, La chair et le sang, Blade Runner et Lady Hawk, dans la première saison.
Et Jason Fleming, acteur de la saison TV Nick Cutter et Les Portes du Temps, et habitué des films de Guy Ritchie, joue aussi dans les premières saisons de The Last Kingdom.
Donc pour commencer la série, on avait mis quelques guest stars assez célèbres, et preuve que ça a marché, puisqu'on est arrivé au bout de 5 saisons. Toby Rigbeau, qui incarne Ethelred, et James Blackley, qui joue Erdwulf, se connaissaient très bien. 7 ans avant The Last Kingdom, ils ont tous deux joué dans le film You Want Me to Kill Him, un thriller basé sur une histoire.
Pour compléter la série, un film est intitulé 7 Kings Must Die, qui est annoncé. Il sera tourné lors du premier semestre 2022.
Donc voilà, on vous donne un petit scoop pour l'émission. Pour les émissions à venir. Donc, extrait de la série que va nous présenter maintenant David.
De rien du tout. Sous peu, tous les rois d'Angleterre seront rois de rien du tout. La Northumbrie nous appartient. La Mercy sera bientôt nôtre à son tour. L'Est Anglie, le Cornwall après elle. Et enfin, la plus belle prise sera le dernier royaume. Le Wessex.
J'ai entendu parler du Wessex.
On peut faire pousser ce qu'on veut au Wessex. Quel est ton nom?
Uhtred. Seigneur de Bebbanburg.
Seigneur?
Mes terres sont là-haut, vers le nord.
Et depuis combien de temps règnes-tu sur ces terres?
Alors, le plus, c'est les originalités de la série. Eh bien, moi, j'ai mis une série historique qui complète bien la série Viking, puisqu'elle traite de la naissance de l'Angleterre et des invasions vikings de celle-ci, qui sont à l'origine, comme on le sait, de nombreuses villes, comme York, par exemple, c'était des cités vikings. On a pu voir que aussi de nombreux peuples, comme les Irlandais, il y a eu tous ces mélanges de peuples qui ont fait un peu la nation anglaise, puisqu'il y avait aussi des Celtes, il y avait aussi des gens qui venaient un petit peu de partout, et ce mélange a donné l'Angleterre qu'on connaît de nos jours, avec toujours ces régions bien spécifiques, hein, je pense à la Cornouaille, l'île de Man, l'Écosse, on voit que c'était déjà compliqué à l'époque, puisque c'était des petits royaumes, et ça permet, moi j'ai bien aimé, parce que comme le voulait Cornwell, on met un petit doigt dans l'engrenage de l'histoire, et si on veut vraiment creuser, eh bien, on peut aller après lire les romans de Cornwell, mais aussi aller se documenter, ce que j'ai fait, par exemple, je l'avoue, puisque c'était des parties et des pans de l'histoire médiévale que je ne connaissais qu'un petit peu, et surtout à travers les séries concernant les Lévites. J'ai mis aussi des scènes de combat réalistes et des costumes et décors vraiment bien travaillés. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, David.
Ah oui, non, mais c'est vraiment bien fait. Hein. Après, c'est différent à comparer, mais ça va aussi dans une veine de séries comme Vikings ou des choses comme ça.
Oui, en fait, tout hein. À fait. Il y a un travail qui est fait. On ne fait pas du à peu près. On essaye de se tenir à la réalité historique. Bon, avec, toujours avec quelques petits défauts de temps en temps, mais bon, c'est quand même bien fait. On est loin des Vikings avec les casques à cornes, comme on les a représentés dans les films des années 60, où on connaissait vraiment très peu de choses, et c'était vraiment un imaginaire qui travaillait plus que la réalité historique. Alors j'ai mis aussi un héros évoluant entre deux cultures, ça c'est intéressant, parce que
aussi, ouais.
C'est un peu l'histoire des migrants, des déracinés, hein, remis au goût du jour, puisque quelqu'un qui est né anglo-saxon, et puis finalement élevé dans deux religions différentes, parce qu'il y a la religion catholique et la religion païenne des Vikings à l'époque. On le voit d'ailleurs dans Vikings, c'est l'inverse, puisque c'est les païens qui vont devenir chrétiens. Et là, c'est...
Ça fait penser aussi un peu à la série Barbare.
Oui, tout à fait. Plus tôt dans... En effet,
sur les barbares, il est élevé par les Romains, et oui. Puis après, il revient...
Voilà, et c'était une coutume, d'ailleurs, à l'époque, ces histoires d'otages, entre guillemets, on ne les appelait pas des otages, c'était les invités, c'était, on voyait un petit peu les échanges. On l'a fait aussi avec les femmes, qu'on mariait pour des questions de territoire, à l'époque, c'était pas des mariages d'amour, hein, c'était des mariages d'intérêt, et on le voit aussi dans ce film-là. J'ai mis aussi une adaptation assez fidèle des romans à l'origine de la série. Donc c'est vrai que j'ai lu du Cornwell et on retrouve un petit peu l'ambiance qu'on avait dans les romans. Et puis bon, le fait que Cornwell était derrière, qui a fait son petit caméo, mais quand même qui a aidé à l'élaboration de cette série en tant que conseiller technique. On peut dire, eh bien, je trouve que ça fait du bien de voir des écrivains ou des auteurs même dans les bandes dessinées, s'impliquer aussi dans la mise en scène et la réalisation en images de leur œuvre. Tu vois d'autres choses à ajouter, David ?
Non.
Alors, les moins de la série, j'ai mis des saisons inégales. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des...
C'est vrai. Hein. Franchement, je ne les ai pas toutes vues, mais même sans toutes les voir, tu sens quand même des différences entre les saisons, hein, comme beaucoup de séries, malheureusement.
Oui. C'est très rare, les séries qui arrivent à égaler. Il y a des moments, certains épisodes de flottement, ce que j'appelle. Ouais. Bon, là, on n'y échappe pas. Et puis, moi, j'ai trouvé dommage la présence de Roger Hauer et de Jason Fleming que lors de la première saison. J'aurais bien aimé retrouver ces personnages plus longtemps. Bon, après, on va pas dévoiler pourquoi ils sont plus dans la série, hein, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus de têtes connues en guest star. Je dis pas forcément en héros de la série, mais ça fait toujours plaisir de voir des acteurs renommés ou assez connus au cinéma ou dans d'autres séries venir se confronter au milieu médiéval et puis les films en costume. Et c'est toujours sympa de les voir dans un autre rôle. Mais sinon, bon, en général, moi, j'ai trouvé la série intéressante. C'est pour ça que j'ai décidé, avec David, de vous la présenter aujourd'hui, parce que, justement, à une époque où on parle d'Europe, on parle de constitution des pays, du Brexit et compagnie, on voit que c'était déjà assez compliqué à l'époque et qu'à côté, heureusement, on utilise des méthodes un petit peu moins coercitives pour contraindre les peuples. Hein. Maintenant, c'est un petit peu plus sournois et puis un peu plus alambiqué. Ça s'appelle la géopolitique, mais déjà à l'époque, on voit qu'il y avait déjà des gros problèmes entre les peuples. Alors, si vous avez aimé, bien sûr, la série Viking, dont on avait parlé ici, sa suite, la série Viking Valhalla, qui va être reconduite d'ailleurs pour les fans en une deuxième saison, c'est sûr. Game of Thrones, hein, pour tout ce qui est intrigue. En fait, on sait très bien que Martins, l'écrivain qui a composé...
C'est Martin.
Qui a composé cette série, a décidé de s'inspirer aussi de l'histoire d'Angleterre, entre autres la guerre des Roses. Hein, donc voilà, derrière, les intrigues, on les retrouve là-dedans. Le roi des Celtes, une vieille série télé anglaise où on voyait la naissance, justement, on voit les tribus, les Saxons, les Celtes, déjà que ça se bagarrait à l'époque, et le début d'unité des Celtes pour essayer d'unifier cette Angleterre naissante. Et après, on retrouvera la légende du roi Arthur. Mais là, c'était vraiment les fondations de la civilisation, entre guillemets, anglaise, anglo-saxonne, puisque on voit que c'était déjà compliqué à l'époque et que le mythe du roi Arthur viendrait peut-être plus de celui-là que de toutes les choses qu'on nous a parlé avec un peu du médiéval fantastique. Alfred le Grand, qui est un film qui est aussi sur la bataille, l'accession au trône d'Alfred le Grand et qui a vaincu premier roi qui a vraiment vaincu les Vikings. Et puis bien sûr, Viking, le film avec Tony Curtis et Kirk Douglas qui nous parlait un peu déjà à l'époque du mélange entre les Anglais. Et en fait, là, c'était un Anglais qui était élevé aussi par les Vikings. Donc c'est assez marrant parce qu'il y a une similitude. Tony Curtis jouant le rôle d'un fils bâtard d'un chef viking et qui en fait était d'origine anglo-saxonne. Donc, et puis, comme tu l'as cité tout à l'heure, Barbare, oui, on peut, si vous aimez ce genre de série, vous pouvez. Vous avez de quoi faire.
Elle est très très bien, on vous la conseille.
Oui, je vous sens chaud pour le coup de cœur.
Alors, le coup de cœur sérivore d'aujourd'hui, bien, j'en ai parlé justement dans les séries, si vous avez aimé, c'est Arthur, roi des Celtes, le roi des Celtes en français, Arthur of the Britons en anglais, qui est une série télévisée britannique en 24 épisodes de 30 minutes, créée par Peter Miller, Robert Bank, Stewart et Terence Foley. Et on retrouvait dans le rôle principal Oliver Tobias, qui jouait Arthur. Oliver Tobias, on a pu le voir dans pas mal de séries d'heroic fantasy, fantastique. On retrouve Michael Gotthard, qui joue le rôle de Kai, son demi-frère saxon, sachant que, justement, c'est un saxon qui a été élevé par les Celtes. Donc, on retrouve encore un petit peu ce mélange de cultures. Et puis, on retrouve Jack Watson, qui joue Lud, l'espèce de maître à penser qui va le former. Et que lui, on a pu voir dans nombreuses séries et films britanniques. C'est une figure. Donc, Jack Watson se reconnaît à son physique bien au trait tiré. Alors que Michael Gotthard, lui, est vraiment le blond typique. Donc, c'est assez marrant. Alors, cette série, comme je disais, met en scène la vie d'Arthur, roi ou chef de guerre des Bretons dans la Grande-Bretagne du VIe siècle, qui doit faire face aux invasions des Angles et des Saxons, parce que oui, on dit anglo-saxon, en fait, il faut savoir que c'est deux tribus qui étaient différentes. Arthur est épaulé par son mentor, Lud, il est le fils adoptif de ce dernier, et Kai, un orphelin saxon, comme je disais, qui a été adopté par la tribu Celle. Et parmi ses alliés plus ou moins récalcitrants, on compte le roi Marc de Cornouailles, le chef jute Yoraf, dont la fille Rowena est éprise, bien sûr, d'Arthur. Il y a toujours une petite histoire. Mais c'est marrant parce qu'on voit, oui, justement, le fait que toutes ces tribus, comment ils sont arrivés à réussir à faire quelque chose de cohérent pour lutter contre les Vikings ou d'autres peuples qui sont venus les envahir au fur et à mesure et voyant qu'eux-mêmes sont des tribus qui ont poussé d'autres tribus ou qui sont poussées par d'autres tribus. Donc c'est assez sympa. Et quoi de mieux que de passer le générique de cette série, Arthur, le roi des Celtes, pour vous mettre dans l'ambiance. Eh bien, j'espère que vous avez aimé découvrir ou redécouvrir les séries dont on a parlé aujourd'hui, des séries historiques. Et puis, à noter que c'est dommage que certaines de ces séries, comme Le Roi des Celtes, ne passent pas sur des chaînes. Et même sur Internet, c'est très dur de les trouver. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est vrai qu'on a le choix de séries neuves, mais moi, je trouve qu'il y a des séries qui auraient mérité de repasser un petit peu plus souvent. Je ne dis pas chaque année, mais de temps en temps, ce serait bien de pouvoir avoir un petit peu Et en version française, parce qu'en version originale, pour les gens qui ne parlent pas l'anglais, puisque cette série est assez vieille, c'est un peu dommage. Mais bon, vous avez le choix, et comme d'habitude, on vous encourage à découvrir ou redécouvrir des nouvelles séries et les consommer sans modération. Eh bien, à bientôt pour un nouveau Sérivore, et en attendant, amusez-vous bien devant vos séries préférées. Bye bye.
Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil. Jusqu'à la prochaine émission.
Série, maintenant choisissez votre camp.
Devenir un céréal lover
ou un céréal eaters.